Bien, on le rallonge. Hein, s'il est prêt. Serge, Jérôme. Alors, Amar Shmuel bar Nachman, b'shem Rav Nathan, Shmona Asar Tzivuyim, Katuv, b'parshat Mishkan. Dans la parasha du Mishkan, donc à la fin du Sefer Shemot, il y a 18 occurrences d'un tzivouï, d'un ordre.
Juste un truc, Odis, on avait commencé. Enfin, on avait.
Oui.
Je sais pas si on avait fini.
Le 8, oui.
Le 8, ouais,
je sais qu'on a lu le début, mais.
Ah oui, c'est ça, je crois qu'on
pas si on en a parlé.
J'ai pas l'impression.
Qu'on n'est pas allé en tout cas jusqu'à la fin.
Non, on peut jusqu'à la fin.
Bien. Alors ça, ce chiffre de 18, le Midrash dit, c'est Keneged Shmona Asrei Chuliot Shebasidra. Ça correspond aux 18 vertèbres de la colonne vertébrale. Ou Kenegdan, ça correspond aussi, et en fonction aussi de, semble-t-il, de ces 18. Alors, on ne sait pas, est-ce que c'est à cause des 18 vertèbres ou bien de 18 occurrences que les Chachamim ont fixé les 18 bénédictions dans la Amida, dans la Tfila. Ça correspond aussi à 18 mentions du nom divin dans le chemin, dans les trois paragraphes du chemin. Ça correspond aussi à 18 occurrences du nom divin dans le psaume 29, là, qui commence, celui qu'on dit vendredi l'histoire, « Avou l'Hachem b'nei Elim ». Alors, arrive Rabbia Baraba, il dit, mais levad mi, il faut dire qu'on calcule ça seulement à partir de Ve'ito olihav, c'est-à-dire dans la parasha du Mishkan, on dit que Hachem a désigné Betzalel pour construire le Mishkan, et avec lui il a désigné aussi Olihav ben Achisamach, le Matei Dan. Et là on va jusqu'à la fin. Et là de nouveau, le Midrash amène un Machal qui ressemble beaucoup au début du Machal de la semaine dernière, c'est le roi, mais il nichnas bamdina. Ve'imo dukasim, va'parchin, ve'itzratlinin, l'itin. Donc il y a sa cour autour de lui. Le roi entre, il y a la cour qui est autour de lui. Ça, on a vu la semaine dernière. Ve'ena'am yodim, et le peuple qui voit ça, ils ne savent pas Ezemehem Chaviv Mikulan. Eux, ils ne connaissent pas la hiérarchie des favoris du roi. Ils ne savent pas lequel est le favori du roi. Alors, comment est-ce qu'ils vont décider? Semble-t-il, ils vont se faire une idée quand même. Et la Mishé Amelech, Ofer Panav, Umdaber Imo, ou Chaviv Mikulan. Celui vers lequel le roi tourne son visage et lui parle, il y a deux choses donc. Il crée un face-à-face et il lui parle. C'est lui qui est le favori du roi. Car, Ici aussi. Vel Moshe Amar, Ale Atar ve Aaron, Nadav ve Aviou ve Shimeim Zekenim, monte, toi, Aaron, Nadav ve Aviou, et les 70 Zekenim. Ve'en anu yodim, eize mehem chavim mikulam. Mais on ne sait pas, puisqu'il y a là une liste aussi, nous ne savons pas lequel est le plus cher. Et la Mishé Akadosh Baruch Hu, Kore Oto, Mdaber Imo, alors on va décider en fonction de celui auquel, celui que le roi, que Hachem appelle, et celui avec lequel il parle. Le Kach Ne'emar Vayikra El Moshe. C'est pourquoi il est dit « Vayikra el Moshe ». Encore un autre chose. « Mashal le melech shenifnas limdina veimi medaber trila » Un autre mashal. Avec qui est-ce que le roi parle en premier quand il arrive quelque part ?« Imi medaber trila » donc « Lo im agroniman » Est-ce que « Shel Medina » Est-ce que le premier avec lequel il va parler, ce ne serait pas dans les responsables de la ville. Est-ce que c'est pas le prévôt des marchands ou un truc comme ça? C'est pas le chef des marchands que... Regard très économique sur la... Enfin bon. C'est pas le ministre de la Culture, là, c'est peut-être le ministre de l'Agriculture.
L'agronomie, des marchés.
C'est pas mal. Agroniman, oui, oui.
La donnée agronomie, non ?
Semble-t-il, oui.
Parce que le Etsiwet Moussef, il parle de monnaie à Divré Mahal.
Oui, oui. C'est le prévôt des marchands, des bouchers ou des... On voit en Égypte aussi ce fameux Potiphar, il était très important, pourtant qu'est-ce qu'il... Il était le chef des bouchers. Et c'est intéressant parce que le mot boucher, il a à voir visiblement avec la bouche, a priori.
Non, mais c'est lui qui fixe les marchés aussi. Enfin, d'après.
Oui.
C'est un rachou.
Il est le maître des marchés, je ne sais pas, prévôt des marchands, je ne sais pas comment ça s'appelait en France. Donc, Machal. Le Meler, chez Nifnas Lemdina, donc, Imi Medaber Trila, Loim Agroniman, chez Medina, Lama, pourquoi? Chez Ouassouk Bechayea, chez Medina. Parce que c'est lui qui s'occupe de la survie, de la vie, de l'endroit, du pays. Car Moshe Asouk Bitrachot, chez l'Israël. De la même manière, Moshe Rabbeinu, il s'occupe de la charge d'Israël, en fait. Amar laen, zou chaya tochlou, vezou lo tochlou. Cet animal, vous allez en manger, de celui-là non. Et zé tochlou, mikola sherbamaim, vous mangerez ça de tout ce qui vit dans l'eau, vous mangerez comme ça. Vet elet shaktsou minaof, et voilà ce qui devra vous dégoûter parmi ce qui vole. Et elle est chaque sou, et elle est l'autre chaque sou. Voici ceux qui devront vous dégoûter, ceux qui ne vous dégoûteront pas. Zé lachem atame, zé tame, zé enotame. Donc c'est lui qui décide, qui dit ce qui est pur, ce qui est impur. Kach ne'emar vayikra el Moshe. Donc deux raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu. Une première raison qui est quoi?
Responsable d'approvisionnement. Quoi.
Non, la première réponse.
Tachot l'Israël.
C'est
Tachot l'Israël. La soupe de Tachot.
Non, mais ça c'est le deuxième, non?
Parce que tu lui parles, enfin, parce que tu l'as appelé, pardon.
Non, alors il faut expliquer pourquoi Hachem l'a appelé. Alors le premier, c'est du fait qu'il a été appelé, Hachem lui a parlé. Alors on sait que c'est lui le plus le favori du roi. Et ensuite, on veut savoir une autre affaire, avec qui il va parler en premier, puisque on a dit en haut que il va parler avec qui il va parler. Eh bien, il va parler avec celui qui, bon, l'agronyman.
Avec le chef des marchés.
Oui, mais ça c'est le chef des marchés. Alors, maintenant, on va essayer de regarder d'un peu plus près.
Maintenant, deuxième machin, on a l'impression que le... Enfin, qu'on sait déjà ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que c'est la vie économique, finalement.
C'est ça.
Et donc, du coup, on sait que Moshe, finalement, s'occupait de la vie économique. C'est assez bizarre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on compare la vie économique avec, disons, quand on dit oh, tu mangeras ça, tu mangeras pas ça, on a plutôt l'impression que ça relève de la santé plutôt que de l'économie, non?
Oui.
On peut revoir le passage où il y a le pur et l'impur. Là,
on va voir tout de suite, on va y revenir.
Je n'ai pas très bien.
Alors, on va regarder d'abord la première partie. Bon, alors il y a cette histoire des 18. Alors, pourquoi il ramène cette histoire du Mishkan ici? On ne sait pas très bien, parce que, a priori, on n'est plus dans, c'est dans. On est dans le Midrash sur Vaikra. Alors, qu'est-ce que le l'épisode sur les 18, là, nous dit. Alors, les commentaires, ils disent ici. La colonne de droite. Keneged shmona esrei chuliot shebeshedra. ורמז שראוי להשתדל בכל עוז במצוות השם שכל חלקי איבריו בכל חלקי איבריו הדרך כל עצמותי תאמרנה לכך היו עשויים que minyan chuliot shebeshedra shen arkavat guf adam shal yada itnonet shema, c'est à peu près effacé, donc essayez de deviner un peu ce qu'il écrit.
Je sais pas s'il y en a qui sont peut-être pas effacés.
Bon, ça va aller, mais
ouais.
Donc vous vous souvenez, les fameux ordres, là, c'est les cas Asher Tziva Hashem et Moshe. On avait vu dans la première partie, dans le 7, là, qu'on avait la semaine dernière, ces ordres-là, c'est comme d'écrire le nom du roi. D'accord ? Vous vous souvenez ? On avait comparé ça au type qui a construit le palais du roi et qui a écrit le nom du roi sur tout. Et alors on a dit, ben Moshe Rabbeinu aussi, il a écrit le nom du roi partout, quoi. Avec la différence énorme, bon, ça c'était le travail du premier du Midrash la semaine dernière, que bien qu'Hachem ait donné des ordres, c'est comme si on l'avait trouvé tout seul. Et bonsoir. Et là, la référence ici, c'est les vertèbres, c'est-à-dire la colonne vertébrale, donc ce qui permet de. Ce qui donne sa stature à l'homme. Et bon, tout dépend aussi de ce qui se joue dans la moelle épinière, etc. C'est quand même tous les ordres qui passent là-bas. C'est toute la mobilité, en quelque sorte, en tout cas, de l'être humain, est liée à ses vertèbres. Et donc, qu'il y a eu 18 ordres dans la construction du Mishkan, qui est un monde en petit, comme l'être humain, il est aussi un monde en petit, l'homme est aussi un monde en petit, il est aussi construit avec ce chiffre de 18 pour fabriquer la stature de l'homme en question. Et donc là, on a l'impression, la première chose, vous voyez ce qui est écrit, c'est au nom de Rabbi Nathan, il dit « Shmona asar tzivuyim katuv » dans la parasha de Mishkan, « Keneged » qui correspondent aux 18 vertèbres. Ça veut dire que ce qui est premier, on a l'impression, c'est les 18 vertèbres. C'est-à-dire, étant donné que dans la structure de l'homme, il y a cette structure 18, quoi, si on peut parler comme ça, alors, dans la structure du Mishkan, on a voulu répéter aussi cette structure sur le mode, donc ce serait le corps humain, dans les os, c'est pas le... Bon, c'est très important, puisque toute la moelle épinière là-bas, mais c'est... Il y a 18 articulations, si on peut parler comme ça, 18 parties, 18 centres... névralgique de l'homme. Et du coup, on a construit le Mishkan en gardant cette structure-là aussi.
Est-ce qu'on peut dire que ça structure le Mishkan?
Oui, alors bien sûr, puisque c'est chaque chose qui a été, chaque fois que Moshe Rabbeinu a fait quelque chose, on dit il l'a fait Kasher Tziva Hashem, c'était ici, il se trouve. Et alors, étant donné qu'on a dit plus haut que Hachem dit je tiendrai ça comme si vous l'aviez inventé tout seul, alors là on pourrait dire le comme si, comment est-ce que ce serait possible de l'inventer tout seul? Si on s'observait et qu'on ait compris que notre structure elle est construite sur ces 18 vertèbres, on dit que si on s'observait, on se considérait comme le modèle du monde, comme un cosmos en petit, et que le Mishkan c'est aussi un cosmos en petit, on aurait pu comprendre à partir de notre physiologie, à partir de notre corps, on aurait compris qu'il fallait avoir ces structures 18 dans le Mishkan.
Je retombe sur la suite, quoi. On a aussi l'impression avec cette histoire de Moshe qui donne les ordres pour la cache-route, etc., que finalement, dans le machal, le roi ne dit pas comment doivent être organisés les marchés, il dit juste qu'il faut que les marchés soient organisés. Mm-hmm. C'est l'agronome qui décide. Et donc là, ce serait Moshe qui aurait décidé que ça c'est cachère, ça c'est pas cachère, ça c'est pur, ça c'est impur.
Ouais. C'est très étonnant parce que, de même que dans le Midrash la semaine dernière, on a l'impression que c'est Moshe Rabbeinu, on veut valider les choses comme si c'était Moshe Rabbeinu qui, de sa propre initiative, avait su comment il fallait construire le Mishkan. Donc ça donne à Moshe une puissance. Ici aussi, on donne la puissance du législateur. Comme si c'était lui le législateur. Alors, dans le premier... Enfin, la référence quand même de ces 18, c'est quand même 18 mentions de quoi? C'est écrit quoi? 18 fois quoi? Pardon? Tzivuyim, donc c'est 18 ordres, 18 fois l'ordre d'Hachem. C'est-à-dire ce Moshe qu'on va faire apparaître comme si c'était lui, etc. Mais en réalité, il a des ordres d'Hachem, mais on sait du paragraphe précédent que ces ordres d'Hachem, Hachem dit lui-même, bon, je vais donner des ordres, mais je validerai comme si vous aviez inventé tout seul les choses. Et là, on a l'impression qu'on aurait pu, voilà à partir de quoi on pourrait arriver à inventer les choses. C'est Chazal qui dit sur le pasuk Mipsari Erze, à partir de mon corps, je vois Hachem, c'est-à-dire à partir de la Mila, c'est-à-dire quand il y a quelque chose dans mon corps qui m'incite, enfin, qui me pousse à reconnaître Hachem dans le monde. J'ai une trace sur mon corps de quelque chose qui me dit un instant. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette trace sur le corps, on pourrait dire, c'est pas parce que mon corps a été créé par Hachem, en quelque sorte. C'est parce que l'homme a fait une trace sur l'ordre d'Hachem, sur le corps, qu'on reconnaît Hachem. On ne connaît pas Hachem, si on veut, comme l'auteur, comme le créateur de l'homme, mais on reconnaît Hachem parce que l'homme, sur l'ordre d'Hachem, a laissé une trace sur son corps. La Mila, c'est les hommes qui l'ont faite. Et justement, d'après la Mila, même si Abraham a vu par ailleurs toutes les autres mitzvot, il les a faites de lui-même, celle-là, il n'a pas osé la faire tant qu'il n'avait pas reçu l'ordre. Donc, pourquoi? Parce que c'est ça l'histoire. Recevoir l'ordre d'Hachem et que Hachem dise, mais c'est comme si tu l'avais fait toi-même. Hachem dit, je me mets à ton service, quoi. Je te souffle, en quelque sorte. C'est toi qui l'as fait. Mais je te souffle. Ou bien comme on aide un enfant. D'accord? Quand un enfant ne sait pas très bien faire les choses, on va l'aider un peu, mais voilà, c'est toi qui l'as fait. En réalité, on a donné un sérieux coup de pouce. Ici aussi, Hachem a donné un sérieux coup de pouce, il a dit ce qu'il fallait faire. Mais quand on n'avait pas de mitzvot pour sortir d'Égypte, et Hachem a dit, vous n'avez pas de mitzvot, je vais vous en donner, comme ça vous en aurez. C'est-à-dire que même, on avait à ce point pas de mérite, qu'on n'était pas capable d'avoir fait quoi que ce soit qui mérite qu'on sorte d'Égypte. Mais il nous a soufflé, Korban Pessah et Mila, les deux damim, là, il nous les a soufflés, et on a fait ce qu'il fallait, ah, très bien. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous dit ici. En fait, je crois qu'on vient diminuer le comme si. C'est-à-dire que si on disait simplement, je vais faire comme si c'est vous qui l'aviez trouvé, mais qu'on n'a aucun moyen de le trouver, alors c'est vraiment très artificiel. Mais ce Midrash-là est la première chose qui dit, mais tu as dans ton corps de quoi le trouver. Cette structure, cette tzivouyim d'Hachem, etc. Mais cette fois-ci, c'est dans le corps, Hachem a mis quelque chose qui peut t'inciter à comprendre qu'il va falloir mettre cette structure du 18. Et du coup, quand on a compris que la Torah elle-même, et c'est Hachem qui lui dit, n'est-ce pas? Comme s'il avait compris tout seul, en regardant son corps. Comme si Moshe Rabbeinu était passé devant un truc de radio ou de je sais pas quoi, une radio, et il a vu, si ma colonne vertébrale est en 18, ou bien il se serait teinté la colonne vertébrale, il aurait compris qu'il y a 18 vertèbres. Je sais pas d'ailleurs s'il y en a 18, d'après les médecins, je sais pas, mais bon, on va prendre ça pour de l'argent comptant. Et comme il n'y a pas de médecin ici, je peux parler tranquille. Oui, il y a le docteur Google. Et il faudrait quand même regarder parce que.
Je ne sais pas si ça marche.
Ouais. Serge va aller regarder.
Je ne sais pas si ça marche.
Demande à Google combien de vertèbres il y a. Alors là, du coup, les Chachamim, ils ont fixé dans la tefila ce chiffre 18. Là, c'est quoi? La tefila, c'est quoi? La tefila, c'est la formation du Ratzon Hashem, ce qu'on appelle le. D'accord? Ça veut dire, on va. L'homme, il est en charge de dire à Hashem ce dont le monde a besoin. C'est ça, les 18 brachot. D'accord? Puisqu'on parle là, les 18 brachot, elles sont dites à l'impératif. Contrairement à ce que vous pensez. on dit au pluriel, mais on parle au pluriel, donc pour ce qui concerne, on parle de ce dont le monde a besoin, et on parle à Hachem en impératif. On dit barer, tka, c'est l'impératif. Comment on peut se permettre? On peut se le permettre parce qu'Hachem nous a ordonné de parler comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on donne. L'impératif, ça s'utilise quand on donne des ordres. Alors, ça fonctionne comment?
Oui,
Hachem dit combien?
33 ou 34.
Vertèbres?
Selon les individus, oui.
Il n'y a pas 33.
Bah, c'est ce qui est indiqué.
Ah, ouais.
Chez l'humain, on compte 33 ou 34 vertèbres, selon les individus, dont 5 sont soudées pour former le sacrum, et 4 ou 5 pour former le coccyx.
Le premier, c'est 33 moins
9.
Moins 9.
Voilà, même,
ça fait encore un peu trop.
C'est-à-dire qu'il y a les vertèbres cervicales, c'est 7. Il y en a 12 thoraciques et 5 lombaires. Donc,
Il y en a 18.
Peut-être que le classement est différent, je crois.
Alors, oui, alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils se sont inspirés dans la Amida? Parce que Hachem nous a, ça fonctionne comme ça, Hachem nous a dit vous êtes responsable du monde. Ok, responsable du monde, donc voilà, on est responsable. Alors, on est censé savoir ce dont le monde a besoin, et on devrait normalement l'amener dans le monde, si on est responsable. Alors, ce qu'on fait, c'est que on dit, voilà, on est arrivé à la conclusion que le monde, il a besoin de ça, ça, ça et ça. D'accord? Évidemment, on peut pas nous le fabriquer, alors on se tourne vers toi. Et comme si on pouvait te donner les ordres de le faire. C'est pas un suppliant. On n'est pas en train de supplier Hachem de nous le donner. En fait, la Gemara, elle dit, c'est drôle de chose. Gemara dit, c'est quand même étonnant, ces ordres comme ça, alors. Elle dit, oui, il faut le dire, mais c'est un impératif sur un ton suppliant. D'accord, on n'est pas un paradoxe. Après.
Et s'il te plaît, chez un enfant.
Hein?
Comme un enfant, donne-nous du.
Ouais.
Du Kinder. Ou c'est pas s'il te plaît, fais ça.
Non, il n'y a pas de s'il te plaît.
Il n'y a pas s'il te plaît, mais dans ce que vous venez de dire, qu'a dit les Chachamim? Qu'est-ce qu'ils disent?
Les Chachamim, ils disent.
Qu'il faut le faire sur un ton.
Après, ils ajoutent, voilà, parce que c'est désagréable de parler sur le ton. Mais en fait, Beikaradin, c'est. Les mots, ils sont un impératif, hein. C'est écrit à l'impératif. Donc, dans l'idée, c'est on donne des ordres, parce que, comme je suis responsable, je donne des ordres à celui qui est capable de le faire. Quelqu'un qui donne des ordres à la cuisine, il ne sait pas cuisiner, mais faites ce steak comme ceci, ou faites une salade de machin et tout. Il ne sait pas comment ça se fait, mais il donne les ordres quand même. Maintenant, Hachem nous a aidés, il a inspiré les Chachamim, pour qu'ils sachent ce qu'il fallait mettre dans ces 18, parce que on aurait pu demander d'autres choses. Et puis il y a des endroits où on a un peu l'impression que ça se recouvre un peu sur Yerushalayim et David, etc. C'est pas complètement. Il y a des redondances, si on veut. Bon, d'accord, tant pis. C'est comme ça. Donc là, j'ai l'impression que puisqu'il s'agit de construire le monde, c'est-à-dire en fait construire la volonté d'Hachem pour qu'Hachem le fasse. C'est donc le. Ça, c'est Kavu Chachamim Shmonei Esrei Brachot. Et c'est aussi. Keneged. Shmonei Esrei Azkarot Shebekirat Shema. Dans le chemin, il y a aussi 18 mentions du nom divin. Alors, ça, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est, le chemin? Qu'est-ce que c'est, le chemin, là-dedans? Les brachot, on comprend. Dans le chemin, ce n'est pas une prière, donc ce n'est pas une fila. Le chemin, c'est une proclamation d'Emouna. Bon, le premier verset, c'est le contenu de notre Emouna que Hachem et Echad, quoi. C'est aussi ce qui unifie le clan Israël. Donc il y a ce 18, mais aussi il faut un élément unifiant, c'est peut-être ça, c'est que 18, c'est quelque chose qui peut servir d'unifiant. Razal ont dû trouver que s'il y avait 18 Askarot, 18 vers 18 occurrences du Shem Hashem, dans un texte qui proclame l'unité, et qui dit aussi comment on y arrive, c'est-à-dire, puisque dans le deuxième paragraphe, on te dit comment on fait tshuva, je veux dire, premier, deuxième, après il y a les Yetziat Mitzrayim et Tzitzit, etc. Bon. Ça doit être quelque chose, il doit y avoir quelque chose d'unifiant dans le. Bon, c'est Chai, c'est la vie, mais c'est le vivant, mais. Et puis il y a aussi 18 Askarot, aussi 18 Shemot dans ce psaume 29. Qu'est-ce qui dit particulièrement ce psaume 29?
C'est le psaume qui annonce le Shabbat.
Oui, on dit ça. Il n'annonce pas le Shabbat, mais on le dit avant. On le dit dans Kabbalah Shabbat.
Je pensais que c'est. D'accord. Je pensais que. Tant qu'on ne l'avait pas dit, c'était pas encore. Il n'y a pas une histoire comme ça sur ce psaume.
Il y a toute une marloquette pour savoir quand de la communauté est réputée avoir pris le Shabbat. Voilà, c'est ce qui se passe ici. C'est le leitmotiv dans le 29, c'est la parole d'Hachem, la voix d'Hachem, retentit sur les eaux. La voix éclate avec force, la voix d'Hachem est majesté, brise les cèdres, fait bondir les jeunes taureaux comme des taureaux, la voix d'Hachem fait jaillir des flammes ardentes, fait trembler le désert de Kadesh, fait enfanter les biches, dépouille les forêts, tout s'écrie gloire, etc. Donc, ça dit la gloire de la voix d'Hachem. C'est cette parole-là, c'est la voix d'Hachem qu'on est censé entendre dans tout. Pardon ?
Il paraît qu'il la voit, la voix. Il l'entend.
Ils ont vu les voix, ça c'est aussi là.
Oui, c'est ça.
Donc, mais c'est peut-être là. Ça c'est, disons, le fait qu'il faut pouvoir manifester. Célébrer la voix d'Hachem qui se manifeste dans tout. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est la voix d'Hachem. Alors, c'est ça, voilà. La question qui se pose, c'est tout à coup, il ramène Machal le Meler chez Nichnas. Qu'est-ce que ça a à voir? Alors bien sûr, le lien il est avec les 18 occurrences du Kasher Tziva Hashem et Moshe, dont on a parlé la semaine dernière. D'accord, ça veut dire que cette voix d'Hashem, que malgré tout, avec toute cette voix d'Hashem qui se laisse entendre dans tout, néanmoins, comme on a vu, Hashem dit ok, vous avez tout ce que vous allez faire, je vais à partir de cette voix peut-être. Néanmoins, je ferai comme si vous l'avez fait de vous-même, quoi. Comme si vous avez compris tout seul ce qu'il fallait faire et que vous l'ayez fait. Et alors là, du coup, on, on dit que... Mais à ce moment-là... Alors, qu'est-ce que... il y a cette parabole, oui.
On n'a pas lu la phrase d'avant, non?
Quelle phrase?
Car il s'amarque la mise à tout à vous lire.
Non, il dit parce que quand tu fais le compte, ça ne marche pas. Si tu comptes, il y en a... Ah, il y a... Donc il faut de dire... peut-être à partir du moment où il y a les deux créateurs, les deux Betsalel et Oholiab, les deux... Et donc, du coup, maintenant, il amène une parabole. Une parabole, et puis la traduction de la parabole. Alors, comme toujours, il faut essayer de faut qu'on trouve qu'est-ce que cette parabole dit, que ne dit pas le texte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est dit là? Alors, le roi qui entre dans la Médina s'est mis en rapport, c'est la même chose avec sa cour, c'est Moshe, Aaron, Nadav, Avihu et les Shivim Zekenim qui montent sur le Sinaï. Évidemment, la grande différence, c'est que la cour, elle est autour du roi, étant donné que monte sur le Sinaï, il n'y a pas... le roi, il est absent, là. Alors, ils vont rencontrer Hachem qui est descendu sur le Sinaï, comme on dit, Hachem descend à leur rencontre, et ils vont le rencontrer. Et ça, on passe sous silence cette différence qu'il y a quand même, que là, le roi, il est entré avec eux. Ici, Hachem n'est pas entré, il ne monte pas avec eux sur le Sinaï. Il est descendu sur le Sinaï. Mais ensuite, celui qui est le plus... On ne sait pas qui est le plus important, qui est le plus cher au roi. Tout à coup, on le fait entrer ici, mon cher Rabbeinu, en concurrence avec Aaron, Nadav, Avihu, les Shivim Zkenim. On ne sait pas lequel est le plus chaviv Mikulan. C'est très étrange tout ça, non? Parce que en quoi est-ce que Aaron a démérité? Aaron était sur le terrain tout le temps, je veux dire. Moshe Rabbeinu était un peu planqué, quoi, dans son palais pendant 40 ans.
La faute du Hegel, c'est bien après, c'est ça?
Oui. Pasouk, là, il dit Vel Moshe Ama, Ale El Hashem, Ata, Ve Aaron, Nadav, Avihu, Shvim, Mizkne Israël, Ishtachvitem Mirachok. Venigash Moshe, le Vado El Hashem, Vem Loigash. Veam Loyalu Imo. Donc, dans les ordres que Moshe Rabbeinu a reçus, déjà c'est. Il lui ordonne de monter, lui, avec les autres. On voit tout de suite que c'est lui et les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, il est plus chaviv? Il y avait un doute là-dessus. On a besoin de... ça veut dire, on a l'impression que Le Midrash ici, il est en train de dire d'où est-ce que je sais que Moshe, d'où est-ce que je sais que Moshe est plus chaviv que les autres, c'est que Hachem l'appelle. Il va lui parler. Donc c'est sur le pasuk Vaikra al Moshe. Quand Hachem appelle Moshe, c'est pas du tout ce qu'on voit ici, c'est que le Midrash ne veut pas du tout dire que la chavivut de Moshe, elle se voit dans le fait que c'est à lui qu'Hachem a donné l'ordre de monter, qu'Hachem lui a parlé, c'est lui qui s'est substitué à Hachem pour parler au Bnei Israël, etc. Tout ça, semble-t-il, c'est... il n'y a aucune preuve là. Toute la preuve, c'est qu'Hachem va lui parler, et a priori, comme le Midrash qui parle ici de Vaïkra el Moshe, bon, il l'appelle et il va lui parler, c'est quand Hachem lui dit d'entrer dans le Ohel Moed, d'entrer dans le Mishkan qu'ils viennent de construire, c'est là qu'on voit qu'Hachem le tient comme le plus chaviv. Tout ce qu'il a fait avant, ce n'est pas une preuve de chavivut, ça veut dire.
Et pourtant, le Machal, il était en relation. Le Machal, on a l'impression qu'il veut faire un lien entre.
Quoi et quoi?
Entre le Machal et puis ce que Hachem l'a mouché, et Aaron, il n'a pas vu.
Oui, il est. Justement, il dit quand est-ce que je vois qui. C'est lui qui l'a. C'est pas du tout. Ça ne marche pas du tout avec le verset en question, avec notre verset. On voit qu'Hachem lui parle et tout, ben on le voit dans Sefer Shemot, on ne le voit pas du tout dans Vaikra. Donc j'ai l'impression que le Midrash ici, il a l'air de vouloir dire que jusque-là, c'est rien. Tout ce qu'on a vu avant, ça commence effectivement avec Matan Torah et ça. Il y a, dans ce Midrash, là, ce que je vois, c'est une continuité entre Matan Torah et la construction du Mishkan. C'est comme si il y avait une grande... Tout commence avec la montée d'Ebné Israël, la montée de Aaron, Nadav et Avihu avec Moshe sur le Sinaï, et tout l'épisode avec les hauts, les bas, etc. Et qu'est-ce qui se passe? L'affaire est close, semble-t-il, avec la construction du Mishkan. Et c'est parce qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu d'entrer dans le Mishkan qu'on voit qu'il était... D'accord? Ça veut dire... Ce Midrash, il a l'air d'unifier toute cette période. Et pas seulement le... Parce qu'il aurait très bien pu dire, où est-ce que je vois? Hachem lui parle. Quand il lui parle, mais ce verset-là qu'il cite, de ce qu'ils sont montés, il est introduit comment? Hachem parle à Moshe Rabbeinu, il lui dit « Monte, toi et eux !» Donc, quel problème?
Mais la fin de ce verset-là, c'est « Moshe monte tout seul, après. »
Après, il va remonter.
Mais à la fin, quand vous avez Moshe monte, donc il se sépare les autres.
Oui, il monte tout seul.
Il monte seul, donc.
Et là, mais dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec le... Qu'est-ce qu'il fait ici, ce Midrash? Il devrait être là-bas, il devrait être dans... Parce que là-bas, c'est marqué « Ela Mishé Akadosh Baruch Hu Kore Oto Umedaberimo ». Vous voyez ?« Umedaberimo », mais « Kore Oto », le Vaïkra, il n'existe pas jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est toujours « Vaïdaber Hachem El Moshe ». Mais « Vaïkra El Moshe », ça c'est seulement ici. Et c'est quand il l'appelle pour qu'il vienne lui parler, d'accord, c'est là la marque de l'amour. C'est là qu'il le distingue. C'est pas en le faisant monter, c'est ça qui est curieux, ça correspond pas du tout à ce que nous on se représente. D'accord? C'est pas du tout parce que Moshe Rabbeinu est monté sur le Sinaï. Tout cet épisode-là, semble-t-il, ne marque pas encore la chavivut de Moshe. Et d'où elle vient cette chavivut de Moshe? Pourquoi Hachem le marque cette chavivut? Pourquoi? Parce qu'il a fait exactement, parce qu'il lui a construit le Mishkan. Il a construit le Mishkan et il a mis le nom d'Hachem en quelque sorte, d'une certaine manière, partout dans le Mishkan. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu s'est complètement effacé devant Hachem. Dans le Sinaï, on ne voit pas que Moshe Rabbeinu s'efface complètement. Il monte, il est là, c'est... Mais ici, il s'efface complètement. Parce que Kacher Tziva Hashem et Moshe, Kacher Tziva Hashem et Moshe, tout le temps, donc ça veut dire Moshe s'efface complètement. Et c'est ça le... C'est ça qui justifie le choix d'Hachem, en quelque sorte. C'est pour ça qu'Hachem le choisit. Avec ça, je ne sais toujours pas bien expliquer. Qu'est-ce que cette histoire des 18 avant ? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre affaire, quoi ?
Et sinon, le machal, il apporte quoi, en fait ? Moi, j'ai pas compris de... ce que le machal apportait. Machal, c'est l'idée, c'est de savoir qui est le favori.
Oui. Le machal, il nous dit, le favori, c'est celui vers lequel le roi tourne son visage et lui parle. Alors, on n'a pas vu qu'Hachem tournait son visage jusqu'alors, vers Moshe.
On parle de favori et pas de celui qui a la fonction la plus importante. Ou autre, on parle, on dit pas
qui Raviv, le favori, Raviv, c'est le plus cher. Oui. Habibi, c'est chéri, quoi, c'est ça, non ?
Oui, justement. Vous avez
donc, c'est le plus cher. Oui, c'est le favori. C'est... Il y a un amour, de, visiblement. Il y a un amour d'Hachem vers Moshe, c'est en ce qu'il... Voilà, il tourne son visage vers lui et il l'appelle.
Oui, mais du coup, c'est pas la position dans le gouvernement, entre guillemets. Quoi. C'est pas,
le... ah, pas du tout. C'est autre chose. Visiblement, c'est pas en tant que... Après, on va voir, il a... Comme si Moshe Rabbeinu... avait à deux casquettes. Il y a deux raisons de l'appeler. Il y a l'appeler parce qu'il a fabriqué le... Oui, et peut-être que justement, c'est que si on continue le machal de la semaine dernière, c'est Moshe Rabbeinu qui en a mis 18 de ces Kacher Tziva Hashem et Moshe. Est-ce que je dis que c'est Hachem qui lui a donné l'ordre, mais en fait, il a écrit 18 fois le nom d'Hachem. Donc, s'il a écrit 18 fois le nom d'Hachem, c'est ça qu'on veut dire, c'est que qu'est-ce qui justifie qu'Hachem l'aime tellement, c'est qu'il a écrit 18 fois le nom d'Hachem, c'est-à-dire qu'il a lu dans son corps, on dit comme ça, comme si Moshe Rabbeinu a fait le travail, il a lu dans son corps qu'il y avait cette structure de 18, c'est pour ça qu'il a su qu'il fallait mettre 18 fois qu'Hachem s'y va Hachem et Moshe. Donc, il est comme s'il avait écrit 18 fois le nom d'Hachem dans le Mishkan. Parce qu'après, on a la tfila, on a les Chachamim, on a le Kriyat Shema, c'est la Torah. Et après, il y a les Tehillim. Partout, il y a cette structure de 18. C'est à la fois dans la Torah, dans la Emouna de Kriyat Shema, dans la Tfila, et les Tehillim, c'est la même chose que la Torah, mais dans le monde des émotions, dans le monde des... des expériences qui fabriquent des émotions, ça les Tehillim, c'est une réponse émotionnelle en parole aux émotions, à tout ce qui se joue. Alors c'est peut-être pour ça. Ça serait le lien, parce qu'on fait comme si c'était Moshe Rabbeinu qui avait compris ça. Il a fait les 18 trucs, les 18 Kacher Tziva Hashem et Moshe par rapport aux 18 vertèbres. Donc il a par rapport au corps, donc il est allé chercher quelque chose qui est concret, qui est là, et à partir de là, il a construit la résidence d'Hachem comme étant un cosmos. Il a dit, puisque l'homme, je vois l'homme comme un cosmos, la résidence d'Hachem aussi comme un cosmos, construisent le cosmos d'Hachem, président d'Hachem, sur ce modèle-là. Donc là, on voit très bien que Moshe Rabbeinu, il a compris ce qu'Hachem a fait, d'accord, et il a construit le palais du roi en prenant modèle sur le roi, sur ce que le roi avait fait. Quand Hachem a créé l'homme avec ses 18 vertèbres, donc Moshe Rabbeinu, il a vu ses 18, cette structure de 18, et il l'a reproduite sur le modèle. Ça, c'est Kacher Tziva Hachem. Pas seulement Kacher Tziva Hachem concrètement ici, sur, mais Kacher Tziva Hachem dans le monde en créant un homme avec 18. Bien. Alors, et ensuite, le deuxième. Essayons de regarder le deuxième. Machal le Meler Shenichnas, toujours l'Amdina. Veim mi medaber trila. Avec qui est-ce qu'il va parler en premier? N'est-ce pas avec cet Egroniman de la Medina? Et pourquoi? Parce que Ouassouk bechayeha shel Medina. Parce qu'il s'occupe de la vie du pays. Et eux, ils disent que ce mot grec, là, il veut dire où est-ce qu'il est, ça? Agroniman, oui. Pakid memune al divrei ma'achal
l'économe
valchar ashuk. Et sur la porte des marchés, quoi. C'est l'organisateur des marchés. Marché alimentaire. C'est aussi les poids et les mesures, quoi. Et les cours, il définit les cours. Il a un pouvoir gigantesque. Il peut, là, un noche. Il peut punir les gens qui désobéissent, etc. C'est le gestionnaire de la vie qui permet. C'est lui qui organise la vie, en d'autres termes. Oui. Ça dit beaucoup sur l'organisation de la. D'abord, l'agro, qui veut probablement dire quelque chose qui a à voir quand même avec la nourriture, mais ils ont l'air de l'étendre, puisqu'ils disent après que c'est aussi lui qui les poids et les mesures, etc., donc probablement les horaires d'ouverture, enfin, c'est lui qui gère vraiment la nourriture, la vie de la cité. Oui. Alors on dit, donc c'est avec lui que le roi va parler d'abord pour voilà, c'est celui qui sait ce qui se passe et il va lui donner peut-être des ordres et entendre un rapport sur comment ça fonctionne. Alors ensuite on dit, même chose, car, même chose, Moshe Rabbeinu asuk batrachot shel Israël. Moshe Rabbeinu s'occupe des trachot, c'est un peu sur quoi. Trachot, c'est les besoins. Ça rit, ouais.
Trachot, c'est pas les intentions. C'est quoi?
Les
soucis, quoi, les soucis.
Préoccupation.
Ouais, eux, ils ont traduit par burdens. Charges, ouais. C'est des besoins, donc. Une préoccupation d'Israël, au sens. Il prend la charge d'Israël, semble-t-il. En leur disant, voilà ce que vous pouvez manger, pas manger, etc. C'est pas les préoccupations, c'est. Lui, il gère effectivement les besoins d'Israël. Bon, ça veut dire que. De même que l'autre, il gère les besoins la vie dans la cité. Alors c'est curieux sa façon, hein, la façon de Moshe de gérer. Parce que qu'est-ce que... De quoi on parle? On parle de Parcha Shmini, là. Oui. Pardon, il n'y a pas
un décalage quand même.
Que oui, qu'est-ce que tu vois comme décalage?
Dans le machin, c'est une personne, cette personne-là, elle gère le cours, enfin, elle fixe, elle a un pouvoir, donc elle gère le cours des denrées, de la nourriture, alors que pour Moshe Rabbeinu, il dit ce qui est permis, ce qui est autorisé à manger ou pas manger, donc c'est pas le même. On passe au même registre, en fait.
Moi, oui, c'est ça, c'est que la façon de gérer, c'est pas qu'il leur. Il n'est pas en charge de leur fournir de la nourriture ou de savoir quand ils vont pouvoir l'acheter, à quel prix, etc. Il est en train de leur dire ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Il leur dit aussi voilà les choses qui devront vous dégoûter. Chaque tzoud, chaque etz, ça dégoûte. Mais c'est intéressant, est-ce qu'on peut prescrire à quelqu'un ce qui va dégoûter? Ça me dégoûte ou ça ne me dégoûte pas. On peut prescrire à quelqu'un, ça me dégoûte. Tu dois te considérer. Est-ce que ça veut dire ici que, comme toujours, tu dois te comporter à l'égard de cette chose comme si elle te dégoûtait, même si elle ne te dégoûte pas? Donc ça veut dire que l'opposition à l'agronyman, qui lui s'occupe de la vie, lui s'occupe d'une vie plus spirituelle, c'est-à-dire quel est le régime alimentaire des Bnei Israël, quoi. L'agronyman, il regarde le gîte, il leur fournit de quoi manger. C'est pas lui qui décide ce qui est bon à manger ou pas. Ouais. Tandis qu'ici, mais alors non seulement, le problème c'est que c'est présenté comme si c'était, ce que disait Frédéric, c'est comme si c'était Moshe Rabbeinu qui décide de ça, quoi.
Bah c'est quand même, la cache-route, c'est. Peut-être qu'il y a la dimension Torah Shebealpé là-dedans, quoi.
Voilà, ce qu'il dit c'est Torah Shebealtav, hein. C'est Shmini, Parcha Shmini. Qu'est-ce qu'il y a de Maïm, etc. Il y a bien sûr du Torah Shebalpé, mais ce qu'il a l'air de citer ici, c'est les Psukim. Donc c'est le Torah Shebektav.
Moi je pensais que justement les Trachot, là, c'était ce qui n'était pas dans le Torah Shebektav. C'est pour ça qu'ils allaient le voir. Et c'est pour ça qu'ils allaient le voir. Et donc il leur dit Torah Shebalpé sur Kashrout.
Peut-être, mais on voit pas. D'abord, on voit même pas lui qui venait le voir. C'est lui qui leur disait ce qu'il fallait. Non, ça, premièrement, ça veut dire qu'on pose une forme d'égalité entre Moshe et ce
Agroniman.
Quel est le chidouche ici? On propose cette égalité, visiblement, oui, par le machal. Donc, comment est-ce que vous allez décrire le chidouche, donc la différence? Il y en a un qui s'occupe de. Qui s'appelait Chayéa, de la vie de la cité.
Moi, j'ai plus une dimension matérielle de chaque Agroniman et une dimension, quand même, plus, en tout cas, de l'ordre législative, voire plus du législateur chez Moshe. Alors que l'autre, c'est un homme qui s'occupe, voilà, de l'économique, et alors que lui, il s'occupe de la loi.
Oui, mais en fait, on ne cite de, comme loi, on ne cite que des lois du régime alimentaire ou de la Touma.
D'accord, mais c'est pas, ils ne sont pas fondés sur la raison. Ils sont fondés
sur la logique. Oui, bien sûr. Mais ce qui est très surprenant, c'est que l'agronimane a l'impression qu'il est libre, mais aussi que Moshe aussi est libre. C'est quand même surprenant, non?
Vous voyez qu'il est libre, pardonnez-moi.
Qui?
Qui est libre? En quoi il est libre, Agoniman?
Le roi vient lui parler, mais c'est lui qui... On dit pourquoi il lui parle, parce que c'est lui qui assure la Hayéa chez le Dina.
Il est sous contrôle du roi.
Il y a un contrôle, mais c'est lui... Bon, s'il fait des trucs, mais c'est lui qui décide ce qui est bien. Comme le type qui a construit le palais, c'est lui qui prend l'initiative de construire le palais. Et là, du coup, on présente des psukim qui sont des ordres d'Hachem, comme s'ils étaient dits par Moshe Rabbeinu, comme si de nouveau on voulait le comparer à l'agronimane, comme si Moshe Rabbeinu était... tout se passe comme si c'était Moshe Rabbeinu le législateur. Quoi.
Comme.
Pardon? C'est dur, on est en plein dans ce problème-là, visiblement, c'est ça qui travaille le Midrash, ou que le Midrash travaille, c'est ce problème de la position de Moshe Rabbeinu. Alors lui, le Marzou, il dit la chose suivante, si vous l'avez, il est dans la deuxième partie de on dit, ça devient mille, pas complètement large, mais mi-large. Au milieu, il dit comme ça, il dit Hine pasuk ze vel Moshe Amar, ce pasuk où Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de monter sur la montagne, etc., avec Aaron, etc. Pasuk shel sof parchat mishpatim ayakode matan Torah. Bon, d'après Rashi, c'est mishpatim, c'est avant matan Torah. Oui. Que Moshe katav mechilta, itro, uva berashi. Sham lo katav vaikra el Moshe. Là-bas, il n'y a pas marqué vaikra el Moshe. Comme je vous ai dit, la vérité, je n'ai pas lu ça, mais je crois qu'il y a une grande. Là-bas, c'est pas marqué ce vaikra el Moshe. Le kan shekatav vaikra el Moshe, lo katav shiyavo Aaron zikne Israël. Imken advarim rechokim. Donc c'est une chose complètement. Pour ça, je vous ai dit, à la limite, on a l'impression que le Midrash, il considère que tout ça c'est une seule, comme il y a une unité de temps, il décide que ça c'est une unité. Ça commence avec la montée sur le Sinaï et ça ne termine qu'avec l'entrée de Moshe Rabbeinu, l'invitation faite à Moshe Rabbeinu d'entrer dans l'Ohel Moed. Umaze Doresh Umdame, alors pourquoi il compare les choses? Alors lui veut dire comme ça, Inyan de Sham Katuv ou Moshe Allah Ela Elohim Vaikra Ela Vashem Minahar, Shelo Allah Ad Shekara Oto. Là-bas aussi, Vaikra Elav. Non, c'est bon. Vaz, Kiyem Mashekatuv, Sham, Venigash Moshe Levado, El Hashem, Vekan, que Shektiv Gamken Vaikra El Moshe, Doresh, Shaya Gamken Beofanze. Et Doresh, que c'est de la même manière que là-bas, quand il lui a dit Vaikra El Moshe, donc, approche-toi. Aïnou bayom hashmini, que Moshe katou vaï bayom hashmini, kara Moshe le Aaron ulvanav le zikne Israël, ad vaïra kvod Hashem el kolaam, aïnou shinichnas le mishkan, kulam amdusham, ou Moshe imahem, vaz vaïkra el Moshe, che makom parchat vaïkra, achar parchat vaï bayom hashmini, vaz liberimo meo el moed, velo kodem lachen. Zéou Moshe katou machal le meler, shinichnas le mdina, ובנמשל הוא באוהל מועד, ודוג בדברים אמיתיים האלו. Donc, il dit que ce qu'il dit là, c'est vrai. Il dit que c'est vrai. Il dit que ce qu'il dit est vrai. Donc, regarde bien, ses paroles, elles sont vraies. Et il dit, sur le pasouk, qui dit que, sur le midrash, qui dit que Moshe asouk betrachot, betoa chiyutam umzenotam, Horid la'em aman, guise la'em, bon, il fait tout à fait autre chose, quoi. et c'est Moshe qui leur a descendu la manne, qui leur a amené les cailles et le BR, après que Miriam ne soit plus là, que Moshe Katav Bemachal, Shassar Asuk Tamid Amid Mazon Livne Amdina, Alpia Melech, Kshenichnas Amelech Lamdina, Medaberi Masar, Ofanim Leitiv, Mahamad, Bne Amdina, Beparnasatam, Bchen Benimchal, Kshenichnas Leumatamla, le Oel Moed, דיבר עם משה שעוסק כבר במזונותם להיטיב, עוד להם בפרשת שמיני, על מחיותם בחיות ועופות, שפרשת חיה ועוף נאמר לאלעזר ואיתמר, לסחר עד ששתקו ביום השמיני, במיתת נדב ואביו. קיבלו בשמחה, ועל שקיבלו תוכחת משה, אצטרק מסמכי פליבה, לכך היה, לכך קרה למשה שכל עילוי גדולה, tout ça, ça vient à משה. Bon, c'est un peu difficile, il a, il colle pas complètement au Midrash, parce qu'on a le droit de faire ça dans le Midrash. Donc lui, enfin, bon, ça y est, il a sûrement raison, que le roi vient parler, comme on avait dit, il parle avec l'agro-liman. Comme tu disais, il est sous l'agro-liman, il est, je pense qu'il est libre, mais sous le regard du roi, et le roi vient lui parler. Pourquoi il vient lui parler? Il vient vérifier comment ça fonctionne. Il vient prendre son... Le type, il va faire son rapport maintenant, et le roi va le corriger, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, justement, ce qui me frappe, c'est que le roi vient lui demander des comptes. Or, tout ça, ça n'existe pas ici, chez Moshe. On ne voit pas qu'Hachem vienne lui dire quelque chose. On ne voit pas qu'Hachem lui parle ici, dans ce qui est dit dans le Midrash. Alors, c'est vrai que si quand il va lui... Ces psukim, là, ils sont dit, c'est Hachem qui lui parle. Mais on met pas du tout en avant cette idée que c'est en réalité le roi qui vient voir ce que Moshe a fait. Comme si Hachem venait voir ce que Moshe faisait, alors que c'est ça l'image. Oui. On a pris là-bas, puis on fait comme si c'était Moshe qui faisait les choses, et Hachem vient vérifier et peut-être inspirer Moshe Rabbeinu pour qu'il fasse mieux encore ce qu'il fait. Mais c'est déjà lui qui s'occupe de tout. Lui s'occupe des choses, et parce qu'il s'en occupe, alors Hachem vient le voir. De même manière que comme Moshe s'est occupé de construire le Mishkan, alors Hachem dit ben, qu'il vient auprès de moi. Bon, alors là-bas, il y a un renversement, c'est l'homme qui va vers Hachem, et pas... Mais le roi entre dans l'Ohel Moed. On a l'impression que l'Ohel Moed, c'est donc... C'est comme il va entrer dans l'endroit de sa présence. Hachem va entrer là-bas. Voilà, il est présent maintenant là. Alors il dit à Moshe de venir, d'entrer aussi, et il lui parle. Et de là, on sait, on voit Immi Medaber Trila. C'était avec qui est-ce qu'il parle en premier? Il parle avec le responsable. Mais on a, les choses sont présentées comme si, justement, c'est important, je crois. Comme si c'est l'initiative de Moshe de dire ces choses-là, et c'est comme si Hachem dit d'accord, c'est bien ce que tu fais. On retourne les choses. C'est pas qu'Hachem lui dit de dire, mais c'est présenté ici comme si c'était Moshe qui prenait l'initiative de tout cela, et qu'Hachem ne fait que vérifier que ce que Moshe fait est convenable. C'est pas plus difficile de dire que ce que lui dit, que c'est Moshe qui a fait descendre les cailles et la manne, etc. Donc, seulement, ce qui se passe, c'est que dans l'histoire des cailles et de la manne, Moshe s'est tourné vers Hachem, il lui a demandé d'envoyer les choses. Il dit, l'Ibn Israël, il réclame, il faut envoyer les choses. Hachem lui dit, ok, je vais envoyer. Tandis qu'ici, dans ces psukim qui sont marqués ici, c'est pas Les bénis d'Israël, ils n'ont rien demandé. Alors, c'est intéressant que ça s'appelle les trachot d'Israël. Les besoins d'Israël. D'accord, que c'est ce qui est dit là, c'est à mettre sur le même plan que le souci de la Groniman de nourrir la cité là-bas. Parce que j'ai l'impression qu'il faut considérer justement ces lois alimentaires, puisque c'est de ça qu'on parle ici, et ce qui me pousse à penser ça aussi, c'est que dans ces lois alimentaires, on a introduit la notion zetame vezenotame. Mais les behemot tmeot, elles ne sont pas tmeot au sens. On utilise le mot tamé pour dire impropre à la consommation, du point de vue juif. D'accord ? C'est comme si. Comme la touma, elle a à voir avec la mort, dans le yesod, ça veut dire que d'une certaine manière, ces nourritures-là qui sont interdites, qui sont tmeot, ou celles dont on dit qu'il ne faut pas les prendre, d'accord, ça a à voir avec la mort, d'une certaine façon. Donc j'ai l'impression que les lois alimentaires ici, il faut les voir comme le régime pour être juif, quoi. C'est un régime alimentaire qui vient permettre d'étudier convenablement la Torah, qui vient permettre de se développer dans ce domaine, d'être vivant en réalité. C'est les lois de vie, vraiment. Chaya, le mot est là-bas, Chaya shel Medina. Ici, c'est Chaya aussi du Clarisse. La vie. Le problème, c'est un problème de vie. Et donc, cette nourriture, ces lois de il faut manger ça et pas ça, c'est un problème de vie. Mais quelle vie? Ben, la vie juive. La vie des juifs. Comme il y a un régime alimentaire pour un type qui veut courir le 100 mètres, qui n'est pas le même que celui qui veut courir le marathon, celui qui veut aller faire de l'alpinisme, de température extrême, etc., il n'a pas le même régime alimentaire que celui qui va faire une excursion, la fleur au fusil, je veux dire, simplement une balade, quoi. Et là, il y a un régime alimentaire qui est un régime de vie, qui assure la vie dans le clan Israël. Alors, en vérité, on peut aussi très bien vivre au sens habituel du terme avec des nourritures interdites. Ça permet de vivre, de survivre. Les goyim, ils mangent ça, ils mangent et ils vivent aussi. Donc c'est pas de cette vie-là qu'il s'agit. Parce que lui aussi, il avait le souci de Chaya shel Medina. Ça veut dire que lui aussi, l'agroniman, il doit veiller à ce que la nourriture ad hoc pour cet endroit-là se trouve. C'est supposé, d'accord, ça veut dire que si cet endroit-là, il est un endroit où il n'y a pas naturellement de l'eau, ben il faut qu'il amène de l'eau. Et si ce qui manque, c'est telle ou telle protéine, ça, il faut qu'il se débrouille pour qu'il y ait ces choses-là, pour cet endroit-là. Et Moshe Rabbeinu, il a aussi ses trachot, ses besoins, on peut dire aussi un souci, mais une tircha, c'est que c'est un travail. Là aussi, il y a un travail qui vient de la nécessité de satisfaire aux besoins des Bnei Israël. C'est-à-dire, pour que les Bnei Israël puissent être à la hauteur de la tâche, de leur tâche, ils doivent avoir un régime alimentaire, et c'est ce que fait Moshe Rabbeinu. Et on a l'impression que c'est comme si Moshe Rabbeinu savait le faire de lui-même. Et qu'Hachem ne fait que vérifier, éventuellement l'inspirer un peu, comme le roi, qui vient voir quelqu'un qui fonctionne déjà, qui fonctionne peut-être au départ avec des deux, ce qu'Hachem lui a dit, mais là, il leur donne, c'est les premiers éléments qu'il leur donne. Il n'y avait pas d'interdit, ces interdits-là, ils n'étaient pas là avant. Bon.